CQFD, Stéphane Gabin.
Covid, maladie de Lyme, toxoplasmose, avec vous Stéphane Delétro, on va faire le point sur ce qu'on appelle les zoonoses.
Ces maladies qui nous lient aux animaux, comme le dit le sous-titre d'un petit livre, petit mais très complet, consacré aux zoonoses. Quelles sont ces maladies? Comment se transmettent-elles? Comment nous en prémunir? Deux des quatre auteurs de ce livre publié aux éditions Quai sont avec nous aujourd'hui.
Oui, parmi eux, Gwenaëlle Vourche, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice adjointe de l'unité épidémiologie des maladies animales et zoonotiques à l'INRAE, l'Institut national français de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Vous êtes avec nous d'Auvergne, hein, c'est bien juste. Clermont-Ferrand, c'est en Auvergne?
C'est bien ça.
C'est bien ça,
ça
voilà.
Ça
n'a pas bougé, effectivement. Il y a eu quelques changements, mais Clermont-Ferrand est resté en Auvergne. Et puis bonjour également à vous, François Moutou.
Bonjour.
Vétérinaire et ancien chef de l'unité épidémiologique à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Vous vous trouvez dans nos studios à Paris, qui est toujours la capitale de la France. On est bien d'accord là non plus, ça n'a pas bougé.
Je crois.
C'est ça, Paris, accueilli par Bénédicte Banet. Une zoonose, François Moutou, c'est donc une maladie infectieuse qui est passée de l'animal à l'humain. Est-ce qu'il y en a beaucoup?
Alors oui, c'est quelque chose qui est assez banal finalement, sachant que la définition comprend le sens inverse. Hein. Les humains sont parfaitement capables de contaminer les animaux. Donc le sens zoonose n'est pas univoque des animaux vers les humains. La réciproque existe également. Mmh. Alors en fait, il y a des milliards de micro-organismes sur Terre. Et même si on trouve qu'il y a beaucoup trop d'agents de maladies, c'est une toute petite partie de cette diversité. La plus grande partie de cette diversité de virus, de parasites, de microbes au sens large, soit nous sont indifférents, soit nous sont indispensables. Et seulement quelques-unes peuvent nous causer des maladies. Et la comptabilité de ces agents est difficile parce qu'il y a beaucoup de façons de le faire. Et on en compte certainement quelques dizaines, mais en fonction de la façon dont on va les compter, les identifier, les reconnaître, on peut changer l'ordre de grandeur. Donc c'est pas forcément le nombre absolu qui est vraiment intéressant.
Alors on va essayer de chercher notamment les causes de l'arrivée de ces maladies, de la transmission de ces maladies des animaux à nous. Est-ce que, Gwenaëlle Vourche, la domestication a joué un rôle important?
Et oui, parce que la domestication a permis de rapprocher finalement l'humain des autres animaux. Et donc à donner des opportunités aux agents pathogènes de passer de l'un à l'autre. Et donc, par exemple, lorsqu'on regarde le nombre d'agents pathogènes qui sont partagés entre les animaux et l'humain, on voit que ce nombre est d'autant plus élevé que l'espèce animale a été domestiquée depuis longtemps, comme par exemple c'est le cas pour le chien. Et on peut citer des exemples, par exemple celui de la rougeole, qui nous aurait été donné par l'ancêtre des bovins. Et à l'inverse, comme l'indiquait François, en fait, il y a des agents pathogènes que l'humain a redonné, entre guillemets, a donné aux animaux, comme la tuberculose bovine.
D'accord.
Alors, si on entre un peu plus dans les détails, on peut les classer, ces zoonoses, finalement, en trois grandes catégories?
Alors oui, on peut classer les zoonoses de différentes façons. Donc on peut dire qu'on peut en classer par le type d'agent qui provoque ces zoonoses. Par exemple des bactéries, qui sont des organismes unicellulaires. On peut parler des bactéries qui provoquent la maladie de Lyme, par exemple. Bactéries qui provoquent la peste. On peut parler des virus, le virus de la rage, le virus de SARS-CoV-2 qui provoque la Covid, ou de parasites qui peuvent être plus ou moins gros, et en particulier les parasites intestinaux, par exemple, des vers. Mais on peut aussi les classer finalement suivant l'importance de la source, l'importance de l'animal dans la transmission. Parce qu'on peut avoir des maladies qui sont transmises à l'homme uniquement par l'animal, comme par exemple la rage, ou alors à l'opposé des maladies comme la Covid, dont l'origine est animale, mais en fait maintenant elle se diffuse au sein des populations humaines sans l'intervention d'animaux. Et donc on a tout un panel, toute une gamme de transmission entre ces deux extrêmes.
François Moutou, il y a un terme central en matière de zoonose, celui de réservoir. Alors qu'est-ce que c'est qu'un réservoir ?
En épidémiologie, donc le terme de réservoir est très important, c'est l'espace dans lequel l'agent de la maladie en question se maintient de façon pérenne au fil du temps, au cours des générations. Alors, si on prend l'exemple de la rage, que tout le monde connaît au moins de nom, on a souvent pensé au renard comme étant le réservoir, et c'est sans doute vrai. Mais en fait, le vrai réservoir, c'est pas le renard, ce sont les renards dans leurs interactions qui permettent au virus de circuler, puisqu'un renard enragé finit toujours par mourir, et tous les virus qu'il héberge meurent avec lui. mais le comportement du renard enragé est tel que le malade transmet son virus à un autre renard. Et donc la notion de réservoir, c'est à la fois les espèces et l'écosystème dans lequel ces espèces vont vivre qui permet le maintien sur le long terme de l'agent responsable de la maladie.
Mmh. On présente parfois les chauves-souris comme des super réservoirs à virus. La réputation est-elle justifiée ou pas ?
Alors moi j'aime beaucoup les chauves-souris, je ne suis pas le seul d'ailleurs. Et donc ce qui se passe, c'est que en fait les chauves-souris ont longtemps été oubliées par les épidémiologistes et les médecins. Il faut dire qu'on avait peu de raisons de s'y intéresser. Et depuis la fin du XXe siècle, on a découvert avec un peu de surprise qu'elles hébergeaient un certain nombre de virus, certains étant vraiment graves pour les humains, alors qu'elles-mêmes semblent les supporter assez souvent sans conséquence. Et en fait, il y a un retard d'information lié aux chauves-souris qui est en train d'être comblé. Mais si on rapporte le nombre de virus identifiés chez les chauves-souris au nombre d'espèces connues, imaginez qu'elles sont 1400 espèces différentes sur Terre aujourd'hui, en fait, on arrive à peu près au même pourcentage qu'on a chez les carnivores, qu'on a chez les rongeurs, qu'on a chez d'autres groupes de mammifères, par exemple. Et donc, il n'y a pas, pour l'instant, de raison particulière de penser qu'elles ont un rôle spécial dans la notion de réservoir de virus.
Gwenaëlle Vauche, vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, je voulais rajouter en complément parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de caractéristiques qui leur sont propres et pour lesquelles on se pose des questions, justement, est-ce que ça facilite leur rôle en tant que réservoir ? Elles ont globalement une espérance de vie assez élevée par rapport à leur poids, par rapport aux autres mammifères. Elles peuvent se regrouper en immenses colonies et puis surtout, c'est les seuls mammifères qui sont doués d'un vol actif. Et donc ce vol, comme il est coûteux sur le plan métabolique, il a été associé à tout un tas d'adaptations qui permet de limiter ce stress oxydatif lié au vol. Et donc notamment, ils ont des voies assez efficaces de réparation d'ADN. Et donc, on se pose la question de savoir si elles ont une meilleure tolérance ou une bonne tolérance au virus. Mais quoi qu'il en soit, quand on regarde le nombre de virus par rapport au nombre d'espèces dans le groupe, voilà, il n'est pas non plus exceptionnellement plus élevé. Et puis, c'est pas tant en fait les chauves-souris en tant que telles qui provoquent l'émergence de maladies, mais c'est bien les bouleversements environnementaux qui en fait détruisent leur habitat et puis modifient le contact de ces chauves-souris avec les humains et qui, ça, va provoquer l'émergence de maladies.
Et entre la contamination de l'homme et la chauve-souris, il y a souvent un hôte intermédiaire. En ce qui concerne les SARS-CoV, que ce soit le 1 ou le 2, on n'est toujours pas très au clair. On parle de civettes palmistes masquées pour le 1 et le fameux pangolin pour le 2. Ça tient toujours la route ou on a tout faux ?
Alors non, je pense pas qu'on ait tout faux, mais c'est une histoire compliquée. Moi, j'avais travaillé sur le premier il y a donc plus de 15 ans maintenant, et c'est vrai qu'on avait identifié un petit animal qui s'appelle la civette palmiste masquée, qui est consommée en Chine pour des raisons à la fois alimentaires et culturelles. On mangeait une civette à l'automne pour se prémunir contre la grippe. Bon, il y a une année, ça n'a pas été très efficace, peut-être par rapport à la grippe, mais il y a eu d'autres conséquences. Et on a trouvé sur cet animal un virus très proche du virus responsable du SARS-1, mais un tout petit peu différent quand même. Et clairement, la civette a pu être la source vers les humains. La question, c'est qu'est-ce qui s'est passé avant la civette ? On a toute raison de penser que ce n'est pas le réservoir dont on vient de parler justement, mais qu'il est sans doute plutôt chez les chauves-souris, peut-être des rhinolophes qui sont une famille spéciale de chauves-souris. Et personne ne sait aujourd'hui, même pour le premier SARS, comment le virus est passé des chauves-souris aux civettes. Civettes humaines, on a compris, c'est dans les restaurants là où on les a consommées. Mais par contre, pour le 2, alors, on a, par analogie, imaginé de la même façon, puisqu'on avait trouvé un virus de chauve-souris qui avait des analogies avec le virus humain, que c'était la source initiale. Par contre, est-ce qu'il y a entre les deux un intermédiaire ? La différence actuelle entre le virus chez les humains comparé à celui de chauve-souris ne suggère pas un passage direct, mais laisse penser plutôt à un intermédiaire, soit simplement le temps, et donc des générations d'évolution virale chez les humains à très bas bruit, sans que ça soit repéré depuis plusieurs mois, peut-être plusieurs années, pour arriver au virus actuel qui est devenu extrêmement contagieux entre humains, ou bien le fameux pangolin, mais c'est plutôt une coïncidence, puisque au printemps 2019, donc bien avant le début de l'épidémie, en tout cas le début officiel, des pangolins de contrebande, les pauvres, avaient été saisis par les autorités chinoises, passés à un laboratoire de Canton au sud de la Chine, dans un laboratoire de virologie. On avait trouvé des virus, dont des coronas, qui pour certains avaient un petit bout de leur génome qui correspond assez bien au virus qu'on a trouvé après, responsable de la Covid. Mais le reste du virus est assez différent. Et les pangolins de contrebande, bien sûr, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas par où ils sont passés, quel contact ils ont pu avoir avec d'autres espèces. Et ils sont beaucoup plus victimes que responsables de quoi que ce soit pour l'instant.
Voilà donc pour les zoonoses d'origine virale. Passons à celles liées aux protozoaires, donc des mini-organismes unicellulaires genre amibes. On va prendre un exemple assez répandu, la toxoplasmose. Quel en est le cycle du parasite ?
Donc c'est un parasite qui fait sa reproduction chez les félidés, en particulier chez les chats. Et donc en fait, ces chats vont excréter des œufs dans leurs fesses, qui peuvent être ingérés par plein d'espèces de mammifères et des oiseaux aussi, et notamment des souris. Et ensuite, le chat qui va manger les souris, et donc le parasite va pouvoir ainsi compléter son cycle. Et donc l'humain, lui, il s'infecte principalement lorsqu'il mange de la viande qui n'est pas assez cuite. Et donc, à ce moment-là, il peut s'infecter par ce parasite. Et c'est particulièrement en fait problématique quand la contamination intervient chez la femme enceinte, quand elle contracte juste pour la première fois la maladie au cours de sa grossesse, parce qu'ensuite le parasite peut se développer et contaminer le fœtus et avoir un impact sur son système nerveux.
François Motou, finalement, comme toutes les zoonoses, elles sont plutôt assez dangereuses pour les fœtus et les immunodéprimés.
C'est vrai pour beaucoup de maladies en fait. Une personne en bonne santé, sauf vraiment des virus extrêmement particuliers ou des parasites très agressifs, résiste assez bien. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'au cours de la vie des individus, les personnes acquièrent une certaine immunité. Et parfois, des primo-infections peuvent un peu secouer, rendre un peu malade. Et au cours du temps, la personne réagit, l'individu animal également de la même façon. Une certaine immunité s'installe. Et après, le portage de l'agent pathogène, quel qu'il soit, se fait sans beaucoup de conséquences pour l'individu. Alors si, dans la vie de l'individu, d'un seul coup, pour différentes raisons, son immunité faiblit ou évolue, c'est peut-être le cas pendant la gestation ou la grossesse, si on parle des humains ou des mammifères non humains. Et à ce moment-là, ça peut raviver un certain nombre d'infections. Et c'est vrai que donc, dans ces cas-là, c'est un moment où la femme et la femelle animale est plus sensible et plus à risque.
François Motou, Toxoplasma gondii altère le comportement des souris. La douve du foie modifie de manière assez spectaculaire également le comportement des fourmis.
Oui, alors ça, c'est la petite douve, parce qu'il y a plusieurs douves possibles dans les foies, des ruminants surtout. Et la petite douve a un cycle assez étonnant, puisqu'elle est hébergée adulte par des moutons, par exemple, qui émettent les œufs par la bile, ça passe par le tube digestif à l'extérieur. Les larves vont parasiter un escargot d'eau douce, dans lequel elles vont se développer, elles changent de stade. Enfin, c'est extraordinaire comme complexité, mais ça marche quand même, c'est ça qui est incroyable. Après, les larves vont sortir de l'escargot, ça va faire une petite boule de mousse dans laquelle il y a pas mal de larves, et une fourmi va manger ça. Et quand la fourmi mange les parasites, ils vont cycler dans son organisme à elle, et ils vont aller, alors dans son cerveau, est-ce qu'on peut dire qu'une fourmi a un cerveau, en tout cas un nœud neurologique? Et le comportement de la fourmi va complètement changer. Elle va grimper en haut d'un brin d'herbe, elle va s'accrocher avec sa mandibule et attendre passivement de se faire manger par un mouton. Et à ce moment-là, le mouton avale la fourmi dans laquelle il y a le parasite sort de la fourmi et fait son petit cycle dans le mouton pour retrouver le foie tranquille et se mettre à reproduire des œufs pour recommencer le cycle. C'est vraiment incroyable.
Voilà, et incroyable aussi, justement, on le disait, toxoplasmose, finalement, qui, en quelque sorte, réduit la peur de la souris pour qu'elle ait plus de chances de se faire manger par le chat.
Alors c'est très étonnant, apparemment l'odeur du chat devient très très attirante pour la fourmi et donc il y a, pour la souris, pardon, ça rime, et donc elle se laisse beaucoup plus facilement manger par le chat, ce qui permet au parasite, alors il ne faut pas faire de finalisme, mais la conclusion c'est que le parasite recycle chez le chat, qui est le seul animal, et les félidés, chez lequel il a une reproduction sexuée. Ailleurs, il a des reproductions asexuées et végétatives.
Si vous nous rejoignez dans CQFD, sachez que nous prenons un moment aujourd'hui pour comprendre ce que sont les zoonoses. En gros, il s'agit des maladies que les animaux nous transmettent. Deux invités pour nous en parler, Gwenaël Wourch et François Motou. On a parlé des maladies virales comme SARS-CoV-2, des maladies protozoaires comme la toxoplasmose. Troisième grande catégorie, Stéphane Delétro.
Les zoonoses bactériennes, avec l'exemple François Motou de la maladie majeure de l'humanité, la tuberculose. Alors, c'est une vieille histoire, on pourrait dire une histoire aussi vieille qu'Homo sapiens ?
Mais probablement, et peut-être même avant Homo sapiens, on a des traces fossiles. Alors c'est difficile de trouver de la génétique de l'ADN de bactéries sur des fossiles aussi anciens. Peut-être qu'on y arrivera un jour, mais pour l'instant, c'est juste des lésions qui y font penser. Et alors on pense que d'ailleurs, curieusement, il y a plusieurs mycobactériums, c'est le genre bactérien dans lequel se trouve la tuberculose. Et en fait, c'est en Amérique, il y a très très longtemps, qu'il y avait une souche transmissible des animaux aux humains, donc il y a quelques millénaires, lorsque les premiers Américains consommaient des otaries et des phoques qu'ils pêchaient et qu'ils capturaient sur la côte pacifique. Et là, il y avait une souche qui s'appelle Mycobacterium pinnipedi, qui est propre à ces mammifères marins et qui a pu contaminer les humains. Et ensuite, la bactérie que nous connaissons, Mycobacterium tuberculosis, qui elle a fait un très long chemin avec l'espèce humaine et peut-être même avec l'ancêtre de l'espèce humaine, est sortie d'Afrique avec les humains et a envahi le reste de la planète. Et c'est elle qui est la grande tueuse, en tout cas au 19e siècle. Et c'est une maladie, je ne sais pas comment le dire, qui reprend beaucoup de services depuis la fin du 20e siècle avec le développement du sida, puisque le sida baisse les défense immunitaire, et qu'on pense qu'un tiers des humains sont porteurs de cette bactérie, le plus souvent sans conséquence. C'est pas vraiment du portage sain, mais la bactérie est là, et si les défenses immunitaires baissent, elle peut se redévelopper. Et on a vraiment des très mauvaises surprises régulièrement avec des souches qui sont devenues résistantes à presque tous les antibiotiques connus. Et un des grands défis du 21e siècle dans lequel nous sommes déjà sera justement comment faire face aux maladies bactériennes zoonotiques ou pas zoonotiques, dont tellement de souches sont aujourd'hui résistantes à tellement d'antibiotiques.
Autre maladie dont on parle beaucoup aussi ces dernières années, Guenéel Wurch, autre maladie donc provoquée par une bactérie, la borréliose de Lyme.
Oui, on parle beaucoup de cette maladie parce que dans nos zones tempérées de l'hémisphère nord, c'est une des maladies qu'on peut contracter en allant se promener, notamment dans les milieux forestiers, dans des milieux où il y a des tiques. Donc, ils sont ces petits acariens qui se développent et qui se nourrissent sur les animaux et qui font un repas de sang. Et lors de ce repas de sang, donc, ces tiques peuvent contracter des bactéries sur des rongeurs ou des oiseaux. Et ensuite, par exemple, quand elles sont au stade de larve, et ensuite, elles vont se transformer en nymphes. Et quand elles vont être nymphes, elles vont de nouveau faire un repas de sang. Et si c'est sur un humain, elles peuvent transmettre la bactérie qu'elles ont contractée sur le rongeur ou l'oiseau à cet être humain qui ensuite peut éventuellement, pas toujours, mais tomber malade. Et donc en fait, cette maladie, elle est pas due à une seule bactérie, mais on a identifié, il y a un groupe de bactéries, c'est une vingtaine de bactéries, mais à l'intérieur de celle-là, il y a environ 5 espèces qui sont reconnues pour être pathogènes chez l'homme. Et suivant les différentes espèces, on a des symptômes qui peuvent être un peu différents, plus neurologiques, plus dermatologiques, plus articulaires.
Voilà donc pour ce panorama des différentes catégories, des différents types de zoonoses. On va terminer avec un petit saut dans le futur, François Moutou. Selon vous, est-ce qu'il faut s'attendre à une augmentation des épidémies de zoonoses ces prochaines années ?
Alors c'est une question évidemment assez difficile, parce que faire des prévisions, c'est une bonne façon de se tromper à tous les coups. Maintenant, ce qui est certain, c'est que depuis 2 siècles, la population humaine est passée de 1 milliard à 8 milliards. Nous serons 8 milliards en 2024. Et en épidémiologie, il y a une notion qui se retrouve régulièrement, c'est celle de seuil de densité. Quand on passe à certains seuils, on voit des phénomènes apparaître qui n'apparaissaient pas en dessous. Et plus la population humaine augmente, plus on a des chances de voir des phénomènes qui jusque-là étaient soit très ponctuels, soit presque pas visibles. Et donc, sans même imaginer de nouvelles maladies, le fait que la population augmente, augmente les chances de nouvelles épidémies. Et comme on est plus nombreux, on a besoin de plus d'espace, on a besoin d'aller chercher des nouvelles terres, on a besoin d'aller défricher pour cultiver. On ne peut pas imaginer que les gens vivent sans se nourrir. Et donc, il y a une pression sur la planète qui continue à évoluer, en plus avec beaucoup d'injustices, d'inégalités. Enfin, tout ce qui ne va pas, on le connaît bien et on n'en parle peut-être pas assez souvent. Et en tout cas, on ne maîtrise pas tout ça. Mais le fait de s'exposer à des environnements que jusque-là, on ne côtoyait pas, expose les personnes qui iront dans ces environnements à de nouvelles espèces animales, porteuses de nouvelles souches de bactéries, de virus et de parasites. Et donc, statistiquement, simplement, à une probabilité plus grande de voir émerger de nouvelles mauvaises surprises.
Rapidement encore, le changement climatique joue aussi un rôle ?
Bien sûr, le changement continu a accentué toutes ces disparités, tous ces changements, avec d'une part le fait que des vecteurs, tout à l'heure on a parlé des tiques avec la maladie de Lyme, il y a aussi les moustiques. Si le climat se réchauffe, on va avoir des espèces d'insectes et d'acariens qui vont monter plus au nord. Et déjà en France, on voit des moustiques comme Aedes albopictus, qui était un moustique tropical installé sur la côte méditerranéenne, qui commence à remonter la vallée du Rhône. Et ce moustique peut transmettre des virus comme Zika, comme Chikungunya, comme la dengue, qui sont tout sauf des choses amusantes à récupérer.
Gwenaëlle Vourche, il y a aussi la fonte du permafrost. Est-ce qu'il y a un réel risque de voir émerger des virus et des bactéries très anciens et potentiellement donc dangereux pour l'homme ?
Oui, alors le permafrost, il inquiète surtout en premier lieu pour ses effets sur le climat, parce qu'il renferme des milliards de tonnes de gaz à effet de serre. Mais on se pose effectivement la question sur les bactéries et les virus qu'il pourrait renfermer. En fait, on a trouvé il y a quelque temps, en analysant des échantillons de peau, de poils d'animaux congelés, des nouveaux virus, dont certains étaient des virus géants, avec vraiment très gros, mais qui ne sont pas pathogènes pour l'humain, ces virus-là. Donc, les virus, potentiellement, c'est pas parce qu'on on trouve de l'ADN ou de l'ARN viral non plus que ces virus seraient infectieux, parce qu'on peut penser que les cycles de congélation, décongélation au moment de la fonte du permafrost, justement, va plutôt fragiliser ces virus. Par contre, on connaît des bactéries, notamment une bactérie, celle du charbon bactéridien, qui est très résistante dans l'environnement, et on peut retrouver ces bactéries, notamment suite à des morts d'animaux, par exemple de rennes en Sibérie, qui contaminent les sols. Et ensuite, des personnes peuvent s'infecter et se contaminer à la suite par cette bactérie qui est très grave.
Et la conclusion qui s'impose, notre santé est inévitablement liée à l'état des écosystèmes. Donc prenons soin de notre environnement. Merci beaucoup, Gwenaëlle Vourche. Je rappelle que vous êtes directrice adjointe de l'unité épidémiologie des maladies animales et zoonotiques à l'INRAE, l'Institut national français de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et merci également à vous, François Moutou, vétérinaire et ancien chef de l'unité épidémiologique à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur les zoonoses, je rappelle que votre livre est publié aux éditions Coeli, il s'appelle Les zoonoses, ces maladies qui nous lient aux animaux.
De 10h à 11h, CQFD.